stop, c'est parti.
C'est quoi la télé?
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello. Eh ben si, nous les journalistes nous intéressent, il est 9h40, vous êtes bien sur France Inter et c'est l'instant M qui démarre.
Vous êtes en direct, allez-y.
La rage peut-elle constituer un moteur journalistique? Les eaux en putréfaction du fleuve Chitirum en Indonésie, les épandages de glyphosate dans les champs de soja au Paraguay et les enfants alentours qui meurent sous les yeux d'un reporter. Comment dépasser l'indignation, la mise en scène du drame? Comment aller au-delà de l'image qui cogne et des trémolos dans la voix? Le fatalisme écologique fait bon ménage, les amis, avec le lyrisme médiatique. Efficace, spectaculaire, anxiogène, mais après. Vert de rage, une chaîne publique française enquête sur le terrain et ne se contente ni de révéler, ni de dénoncer. Ainsi, le journalisme ne vaudrait que s'il produit des effets concrets.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Quand le villageois qui est là me dit de mettre un masque si je vais très près de l'eau, parce que c'est vrai que même d'ici on sent l'odeur.
C'est bouillant, c'est hyper chaud, et l'odeur est insupportable. T'as vu la couleur de l'eau?
Je sors de là, direct.
Ça va?
Ça prend la gorge de ouf. Ah, ça pique les yeux.
Sinon, comment ça va, Martin Boudot?
Mieux.
C'est ça.
Ça va mieux.
Martin Boudot, c'est donc ce Tintin reporter qui touche l'eau, qui touche la peau des enfants, qui coupe leurs cheveux, qui respire ce que eux-mêmes respirent. Vert de rage est parti donc au Paraguay et en Indonésie. Ce sera diffusé sur France 5, une production Première Ligne, la maison qui fait les caches d'investigation. Pour caches d'investigation, vous aviez déjà signé Produits chimiques, nos enfants en danger. C'était sur les pesticides et c'était ici, chez nous. Voilà. Ça commence demain, Vert de rage, avec ces deux nouveaux épisodes. On va en parler dans un instant. Mais comme on est mardi, il y a Xavier Delaporte à Méconnais. Bonjour Xavier.
Bonjour Sonia, bonjour à toutes et
alors,
à tous.
Alors la fenêtre de la porte ce matin.
Je dois vous faire un aveu, j'ai un problème avec l'intelligence artificielle. Je ne sais jamais très bien comment il faut en parler. S'il faut s'émerveiller de ses progrès, s'en inquiéter, s'en réjouir, ni même dans quelle mesure on peut croire en ce qui nous est raconté. Bref, je suis un peu perdu. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a quelques jours, la très respectée revue Science publiait un article tout à fait fascinant. Des chercheurs anglais ont réussi à ce qu'une équipe d'intelligence artificielle batte la meilleure équipe humaine dans un jeu vidéo où il s'agit d'aller chercher des drapeaux dans le camp de l'équipe adverse et de les rapporter dans son propre camp. Étape apparemment cruciale dans le développement de ces programmes parce que s'ils sont déjà plus forts que nous en 1 contre 1, souvenez-vous de la cuisante défaite du champion du monde coréen de jeu de Go en 2016, jusqu'ici on pouvait encore se targuer d'être les seuls à savoir collaborer. Donc voilà, apparemment, ça n'est plus le cas. Les intelligences artificielles peuvent collaborer, adoptent des stratégies d'équipe qui ressemblent à celles des humains. C'en est fini d'une autre prérogative de notre pauvre humanité. Ouais. Mais voilà. Quand on regarde de plus près, on peut raconter cette histoire d'une autre manière. D'abord, peut-on vraiment dire que ces programmes collaborent entre eux? Eh ben non, pas vraiment. En fait, s'ils donnent l'impression de jouer ensemble et de se coordonner, les agents automatiques jouent individuellement. Ils répondent individuellement à ce qui se passe dans le jeu, mais ne communiquent pas entre eux. Ils ne pratiquent pas vraiment un jeu d'équipe. S'ils s'en tirent, c'est parce qu'ils brassent une quantité gigantesque d'informations en temps réel, mais surtout parce que l'univers de ce jeu est assez simple. On ne sait pas très bien ce que ça donnerait dans un univers plus complexe, a fortiori, dans la vraie vie. Ensuite, ces programmes ont appris à jouer tout seuls. C'est d'ailleurs ça, l'intelligence artificielle. Ce sont des programmes qui apprennent seuls. En l'espèce, la méthode utilisée s'appelle le reinforcement learning, un apprentissage par essai-erreur qui permet en quelques semaines, de battre des humains très entraînés. C'est très impressionnant. Oui, sauf que il leur est possible d'apprendre parce que le critère de réussite d'une stratégie est simple, c'est gagner des points. Mais imaginons que le critère du succès ne soit pas un nombre de points, mais quelque chose de plus subtil, le bonheur par exemple. Eh ben, ce serait beaucoup plus compliqué pour eux. Dernière chose, pour en arriver à ces résultats, il faut que les agents automatiques jouent l'équivalent de 4 ans de jeu en quelques semaines. Pour ça, il faut une énorme puissance de calcul et donc beaucoup d'argent. Donc, je pourrais vous dire, bon bah, au vu de tout ça, on va se calmer un peu sur l'intelligence artificielle. Oui, mais sauf que le risque, alors, c'est d'être irresponsable. Parce que malgré tout, le progrès de l'intelligence artificielle est considérable, parce qu'il y a dans son fonctionnement des zones d'ombre, notamment ce qu'on appelle les boîtes noires, hein, c'est-à-dire ces programmes étant auto-apprenants, on sait jamais exactement comment ils arrivent à leurs résultats. Parce qu'on a tort de comparer leurs aptitudes aux nôtres, j'ai dit qu'ils ne collaboraient pas au sens strict du terme. Mais après tout, si le résultat est le même, qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'ils collaborent ou pas au sens humain du terme? Ce serait irresponsable. Enfin, parce que d'autres gens beaucoup plus calés que moi s'en inquiètent de ces intelligences artificielles. Le regretté Stephen Hawking, par exemple, à la fin de sa vie. Bref, Je pense que l'intelligence artificielle est un piège journalistique, le genre de sujet où on est aveuglé par le spectaculaire, qu'il soit optimiste ou pessimiste, le genre de sujet où le journaliste dit beaucoup de conneries et je suis sûr d'en avoir au moins dit 5 ou 6 dans les 3 minutes qui viennent de s'écouler.
Eh ben, il y a qu'à réécouter sur franceinter.fr.
Et fact-checker.
Et fact-checker. Merci Xavier Delaporte, à mardi prochain.
L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
La plus jeune est morte à 11h du matin et l'aînée à 11h du soir.
En 2014, Adela, 6 mois, et Adélaïde, 3 ans, meurent à quelques heures d'intervalle après avoir été exposées aux épandages de pesticides. Leur père Benitez se souvient.
Ce jour-là, autour de chez nous, les producteurs de soja ont épandu pendant 24 heures des pesticides. En avion. En tracteur.
Ce sera le premier épisode de la série Vert de Rage, diffusée demain soir sur France 5 à 20h50. Celui-ci se déroule au Paraguay, puis nous irons jusqu'au remonterons jusqu'aux sources du fleuve Chitarum, le fleuve de Java, 300 kilomètres, une merveille de pureté à son commencement, puis une poubelle à ciel ouvert. Martin Boudot, vous signez ces deux épisodes de Vert de Rage. Vous étiez déjà parti en Afrique du Sud il y a quelques mois. Réfléchissons, parce que je l'ai dit tout à l'heure en introduction, Vert de Rage est un projet qui pose beaucoup de questions sur la mission, la façon de faire du journalisme et surtout sur sa fonction. On va partir de ce qu'on voit. Vous partez d'ailleurs de ce que vous voyez. Vous êtes journaliste de télé. Votre première arme, c'est l'image. Venez voir.
Absolument. Ce que j'essaie de défendre, c'est un journalisme engagé, effectivement. Oui. C'est pas forcément un journalisme militant. Mmh. Parce que quand on est militant, on a tendance à oublier les principes du contradictoire. On a tendance un peu à se noyer dans son militantisme. Moi, l'idée, c'est effectivement d'apporter quelque chose, d'être utile. Et c'est vrai que...
On va en parler, mais ça part d'abord d'une donnée sensible. Venez voir, c'est spectaculaire. Et après, il y a toute la question de qu'est-ce qu'on fait avec ce spectaculaire-là.
Plus que du spectaculaire, quand on va au Paraguay, la première chose qui m'a intéressé au Paraguay, c'est que certaines régions du Paraguay avaient le record mondial de déforestation. Oui. Donc ça, c'est en quelque sorte spectaculaire, mais c'est surtout une information.
Oui.
Et effectivement, vu du ciel, c'est très très impressionnant.
Vu du ciel, c'est-à-dire que vous avez souvent recours au drone, c'est-à-dire
pilote. Ouais.
C'est vrai, oui, c'est vous qui le pilotez, mais il y a un côté prenons de la hauteur avec les images, voyons ce qu'on ne peut pas forcément voir à échelle humaine.
Absolument, le drone pour le coup est un outil assez incroyable. Moi, je m'en sers pas uniquement pour faire des belles images, je m'en sers comme vous le dites pour constater, pour montrer la déforestation, pour montrer l'étendue de la pollution.
Pour aller là où on ne vous laisse pas aller en Indonésie, par exemple.
Et puis pour repérer, par exemple, les épandages de pesticides, parce que vous avez des telles étendues que depuis la voiture vous les voyez pas. Donc c'est un outil assez incroyable qui aide, comme vous le dites, à constater la pollution et à aller rencontrer les responsables et être le plus factuel possible.
Alors on va dire que c'est le stade 1 du journalisme, voir, constater, et que ça ne suffit pas. Stade numéro 2, selon Martin Boudot.
Y a-t-il des informations précises à collecter sur les enfants ?
Oui, il faut choisir des enfants qui n'ont pas de maladie génétique, qui n'ont pas subi de radiothérapie et qui n'ont pas de maladie infectieuse. Il faut des enfants en bonne santé. Il faut prendre en compte le poids, le sexe, l'âge et aussi depuis combien de temps ils vivent ici.
Deux enquêtes, je l'ai dit, une au Paraguay, l'autre en Indonésie, deux protocoles scientifiques, la mise en place ou la participation à deux études épidémiologiques à grande échelle.
Épidémiologique, en tout cas études à grande échelle, ouais, c'est ça. C'est le stade 2, c'est intéressant, je l'avais jamais vu comme ça, mais l'idée c'est de collaborer avec des scientifiques sur place et en Europe aussi, donc par vidéoconférence, afin de pouvoir mettre en place des études, documenter la pollution. Moi, je suis pas scientifique, donc je les appelle, ils me disent comment faire. Je suis une sorte de laborantin éventuellement. Et puis je ramène des prélèvements, on les analyse ensemble. Ils vont les comparer, ils vont pouvoir donner un peu de relief à ces prélèvements, et on va essayer de travailler ensemble et de voir ce que ça donne, et après de remonter la chaîne de responsabilité.
C'est ça. Parce que vous avez l'idée, vous journaliste occidental qui travaillez pour un média riche et en plus un média
média libre, c'est-à-dire France Télévisions, en l'occurrence France 5, la chaîne qui a financé ces enquêtes, que vous avez accès à des scientifiques de haut niveau, à des labos super bien équipés. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a certains prélèvements qu'il faut envoyer en urgence en France parce que sur place, on n'a pas les moyens d'eux. Et surtout, des labos dont vous pouvez garantir l'indépendance.
Absolument, et garantir les résultats. Parfois, ça se joue à rien. Au Paraguay, les scientifiques sur place, ils n'avaient besoin que 2500 euros en plus pour terminer leur étude et l'élargir. Oui. Et nous, si on peut apporter ce financement-là, les aider et aussi faire des prélèvements de soja, d'eau et de terre à côté pour donner un peu plus de relief à cette étude, faisons-le. Effectivement, j'ai la chance de travailler pour France 5 qui finance ce genre de reportage, de documentaire. Et réellement, ça peut avoir un impact. 2500 euros parfois pour des scientifiques au Paraguay ou en Indonésie, c'est énorme. On ne se rend pas compte à quel point ça peut être déterminant pour la suite d'une étude scientifique.
Stade 3, la chaîne de responsabilité.
Alors, donc vous avez analysé, c'est quasiment une eau d'égout, une eau usée, urbaine, compte tenu de la bactériologie, compte tenu de l'ADC, la demande chimique en oxygène, et puis on a un peu des tributylphosphates, c'est pas un produit que j'ai l'habitude de rencontrer, c'est un solvant, hein. Et puis on a un peu de phtalate aussi, qui dépasse quand même les limites toléré en normes de qualité européenne, également.
Et puis, on va raconter un petit peu l'histoire du fleuve Chitarum, qui est donc le deuxième épisode de Vers de Rage demain soir. 200 000 tonnes de plastique déversées dans la mer chaque année depuis les fleuves indonésiens. Ça, c'est la pollution visible. Il y a aussi la pollution chimique. Il y a 500 usines textiles qui rejettent chacune 300 litres d'eau usée, mêlée de teinture, en réalité de teinture chimique. Ça aussi, c'est de la pollution visible. Hein. Ça se voit. Il est d'une couleur absolument terrifiante, ce fleuve. Les eaux du fleuve servent à nourrir toutes les familles alentours. D'abord parce qu'on en irrigue les cultures. Vous retrouvez du plomb et du chrome dans le riz à des normes complètement délirantes. Mais les familles s'en servent simplement aussi pour se laver, pour faire la vaisselle, pour cuisiner.
Absolument.
Voilà ces eaux que vous avez prélevées. Quand on parle de chaîne de responsabilité, vous allez voir qui sont ces usines textiles et pour qui elles travaillent ?
Absolument, parce que l'idée, c'est une fois qu'on a fait le constat, qu'on s'est mis en contact avec des scientifiques, une fois qu'on a fait les prélèvements, qu'on a les résultats, maintenant il reste un autre travail journalistique, c'est remonter la chaîne de sous-traitance. Parce que la sous-traitance, c'est un peu l'arme du lâche. Les multinationales l'utilisent énormément. Comme ça permet de couper la chaîne de responsabilité en disant, attendez, c'est pas moi, c'est le sous-traitant. Donc il y a un gros travail de documentation pour, auprès du ministère du Commerce indonésien, retrouver la liste de tous les sous-traitants, puis après de recouper avec d'éventuelles listes des grandes marques, H&M, Uniqlo, Gap, etc., pour voir qui travaille avec qui. Et c'est assez compliqué, ça nous a pris beaucoup de temps, quasiment plus de temps que les analyses, pour être tout à fait honnête. Et une fois qu'on a ces résultats-là, là on peut aller voir les marques, là on peut dire, voilà, on a trouvé, nous, ces résultats-là. Qu'est-ce que vous en dites ? L'idée, c'est pas d'aller les voir en disant, regardez, vous avez pollué, vous êtes vraiment des salauds de multinationales. Non, l'idée, c'est de dire, voilà, on a ce constat aujourd'hui de pollution. Vous, multinationales, ça sort de vos usines, de vos sous-traitants. Qu'est-ce que vous allez faire pour les gens qui travaillent à côté, qui vivent à côté, et avec qui j'ai passé pas mal de temps et de semaines. Donc, l'idée, c'est d'essayer de faire bouger les choses.
Façon aussi d'alerter le consommateur français, téléspectateur de France 5. Et d'ailleurs, dans le premier épisode au Paraguay. Là, c'est pas totalement une chaîne de responsabilité. Là, c'est la façon dont finalement on répand du pesticide au Paraguay va nous concerner, nous, dans le lait qu'on boit et dans la viande qu'on mange. Donc, de toute façon, c'est aussi une sorte de cartographie d'une agriculture mondialisée, et de la même manière que le deuxième épisode sera sur une industrie mondialisée.
Bien sûr, l'économie est mondialisée, l'environnement aussi, la pollution l'est aussi. Quand on pollue au Paraguay, ça a de l'impact sur notre chaîne.
Alors, expliquez,
Le Paraguay, c'est un des plus grands producteurs de soja au monde. Oui. Nous, le soja en France, en Europe et en Amérique, même dans le monde entier, on l'utilise surtout pour nourrir notre bétail, les bœufs, le porc, etc. Et ce soja-là, c'est un soja majoritairement transgénique. Il y a une exception française pour importer du soja transgénique pour nourrir le bétail. Et ce soja-là, il est produit dans des conditions qui posent question. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs épandages de pesticides par jour. Des pesticides pesticides qui sont interdits en France, l'époxyconazole, la bifenthrine, etc. Mm. Ça vous parle peut-être pas, mais c'est des neurotoxiques assez puissants. Et c'est, il y en a plusieurs par jour. Les villages sont totalement entourés. Et nous, l'idée au Paraguay, c'était d'essayer de comprendre comment ce soja qu'on consomme indirectement va impacter l'ADN des enfants qui vivent à côté. Mmh. Donc on a pris 50 enfants d'un village entouré de champs de soja et donc de d'épandage de pesticides au Paraguay. Et puis on a pris un autre village d'enfants, le seul village où il y a du bio au Paraguay, c'est le seul.
Ouais.
Et on a comparé les dommages génétiques de ces deux populations pour essayer de voir s'il y avait oui ou non une différence. Il y a une grande différence.
Sachant qu'on nourrit nos vaches avec ce soja, nos vaches, donc notre lait, notre viande. Vous posez aussi la question de ce que le consommateur français ingère au bout de cette chaîne. Et puis, il y a, on va dire, le quatrième stade de ce journalisme dont vous faites le manifeste et la démonstration à travers ces deux épisodes, qu'on pourrait appeler l'impact en Indonésie.
Ce sont des informations très intéressantes pour nous. Je vais demander au directeur du contrôle de l'eau qu'il refasse des analyses avec vos paramètres. Et si on retrouve les mêmes résultats, nous demanderons au gouvernement régional de revoir l'autorisation d'exploitation de ces usines. Je pense que nous devons aussi revoir nos critères concernant l'industrie textile.
Au fond, si Vert de Rage venait à devenir une série, venait à devenir un programme récurrent, il lui faudrait un droit de suite, droit d'inventaire de votre travail. Il faudrait pouvoir revenir sur les lieux, non pas du crime, mais sur les lieux de l'investigation, Martin Boudot.
Absolument, absolument, c'est indispensable. Aujourd'hui, moi je suis en contact toujours avec les gens sur place, mais j'ai envie que les téléspectateurs français puissent être en contact avec ces personnes-là, avec ces organisations. C'est des lanceurs d'alerte formidables. En Indonésie, celui qui nous ouvre ses portes, Denis Risandani, qui se bat contre la pollution du Citarum, a enfin reçu des fonds pour sensibiliser les populations. Le président sur place a annoncé que le Citarum serait propre d'ici 2025. C'est pas que notre reportage, hein, y a une attention internationale, mais
Oui, c'est une pression médiatique internationale.
Absolument.
Et c'est aussi de cela que parle cette série. C'est quels sont les effets d'une pression médiatique internationale? À quoi ça sert le journalisme d'enquête sur le terrain? Pas seulement à produire du spectaculaire et du fatalisme médiatique ou de l'angoisse mondialisée, mais aussi à faire changer les choses sur place.
Faire bouger un tout petit peu les lignes, essayer de nourrir un débat. Au Paraguay, notre étude scientifique, en collaboration avec la docteure Benitez, a fait la une des médias, et puis surtout, elle est remontée jusqu'au Sénat. Ça a déclenché un débat national avec aujourd'hui des pressions de la part des lobbies, les semenciers de soja, qui disent que la docteure s'est enrichie, que notre étude est une fausse étude. C'est normal, c'est classique.
Oui.
Pas de problème, c'est
un
le
mot
c'est
peut-être
le
sur l'Afrique du Sud où vous étiez passé il y a quelques mois.
Eh ben l'Afrique du Sud, notre travail, on a réalisé des prélèvements de cheveux, des prélèvements de sol, des prélèvements d'eau qu'on a mis à disposition d'une communauté.
Oui.
Ce travail-là, de documentation, est en train de servir dans le cadre d'une procédure des habitants d'un village contre une industrie
en
de, ouais, une, bien sûr, contre une industrie
justice,
de, ouais. de mines d'or en particulier. Tant mieux, si ça fait changer les choses et que ça permet de vous faire bouger un tout petit peu les lignes, ben on a.
Alors ça pose aussi la question de la pérennité de la circulation d'un programme de télévision qui là en l'occurrence est en français, dont l'accès est quand même limité puisque c'est France 5 qui a les droits. Comment vous l'imaginez puisque l'idée c'est de mettre aussi ce travail au service d'une population locale et de militants locaux.
C'est très simple, j'ai la chance que France 5 soit d'accord pour que le documentaire soit diffusé avant dans le monde qu'en France. Donc par exemple, le sujet d'Afrique du Sud a été diffusé en Afrique du Sud via Al Jazeera.
Ouais.
Le sujet sur l'Indonésie a été diffusé en Indonésie via une chaîne qui est diffusée en Indonésie. Donc, non seulement on a de l'impact auprès des consommateurs français qui peuvent être sensibilisés, mais vraiment, nos sujets sont aussi diffusés dans les langues locales ou en anglais pour essayer aussi de montrer aux gens sur place à quoi on a servi. Là, le Paraguay, on cherche désespérément un diffuseur sur place. Les chaînes sont un petit peu liées au pouvoir, donc c'est un peu compliqué, mais je pense qu'on va trouver. Et franchement, si on ne trouve pas, on le mettra en version espagnole. Sur Internet.
Et allez hop, sur YouTube. Merci beaucoup Martin Boudot. Le Paraguay, l'Indonésie, ce sont les deux épisodes de Vert de Rage et c'est demain soir sur France 5.